I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Média et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien. Et vous, comment se passe votre relation au travail? C'est plutôt épanouissant et enthousiasmant ou plutôt boule au ventre et démotivation? Si vous êtes dans le deuxième cas et que vous comptez chaque semaine le nombre de jours qui vous séparent du week-end ou des prochaines vacances, je vous recommande plus que jamais le parcours Chance, partenaire d'émotion. Chance est une communauté d'entraide professionnelle pour aider chacun et chacune à trouver sa place dans le monde du travail. La communauté Chance a une méthode unique qui a fait ses preuves. La première étape, c'est celle du bilan de compétences. En 3 mois seulement, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs pro et renouer avec ce qui vous anime vraiment, avec l'aide d'un coach professionnel qui vous sera dédié. La deuxième étape, c'est celle du passage à l'action. Une fois votre projet défini, toute la communauté Chance sera à vos côtés pour donner vie à votre projet. Un collectif hyper engagé, prêt à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Si ce message résonne en vous, je vous invite à vous rendre directement sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre vie pro. Bonne écoute.
Louis. Dans le film Discount, sorti en 2014, les salariés d'un supermarché décident de récupérer les produits presque périmés destinés à la poubelle pour ouvrir une épicerie clandestine et solidaire à prix très bas. Plusieurs choses les mènent à cette décision. Après des années de travail dans leur entreprise, dans des conditions difficiles, ils sont menacés de licenciement à cause de l'arrivée prochaine de caisses automatiques. Surtout, ils ne comprennent pas l'absurdité de devoir détruire des produits encore tout à fait consommables, alors qu'eux-mêmes peinent à joindre les deux bouts. Ils le savent, si leur entreprise l'apprenait, elle considérait que ce qu'ils font, c'est du vol. Mais ils sont heureux de désobéir, de détourner ces marchandises, et ils sont convaincus que ce qu'ils font est juste, que c'est utile. Dans cet épisode, ce sont 2 autres histoires de désobéissance au travail que nous allons entendre. Pour comprendre ce qui peut pousser des salariés à prendre le risque de désobéir, et ce que cela peut avoir de salvateur dans leur quotidien de travail. Je suis Adélaïde Tenaglia, bienvenue dans Travail en cours. La désobéissance de Julien a commencé par flemme. Pendant ses études, il travaillait comme vendeur dans une enseigne de fast fashion, plusieurs fois par semaine.
Quand on est en caisse, souvent le client amène un article qui n'a pas d'étiquette qui est attachée aux vêtements, et du coup, la procédure traditionnelle, c'est de faire appel à un vendeur pour qu'il aille vérifier le prix dans les rayons. Et en fait, assez naturellement, c'est vrai que les clients nous disent souvent « Ah, je l'ai vu à 12,99 €, donc voilà, on prend l'habitude un peu de lui faire confiance, etc. » Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un certain temps, j'avais un article qui n'avait pas d'étiquette. Et en fait, j'avais un petit peu la flemme, tout simplement, de demander à quelqu'un d'aller voir en rayon. Et je me suis dit, allez, tranquillement, discrètement, je vais tout simplement le mettre dans le sac du client. Ni vu ni connu, lui, il s'en rendra pas compte. Et puis au final, ça lui fera un petit cadeau aussi. Et du coup, ça a commencé, un peu par flemme, quoi, cette pratique.
La combine fonctionne. Le client repart avec un article non payé dans son sac et Julien comprend qu'il peut réitérer l'opération. Et même aller un peu plus loin. Au lieu de faire ça uniquement avec les articles sur lesquels il manque une étiquette, il va le faire aussi avec des vêtements parfaitement étiquetés.
Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, il n'y avait aucun risque pour le client puisque on démagnétise l'article. Si jamais il y a un antivol, on enlève l'antivol, on lui met dans le sac. Après, on referme le sac avec un petit scotch de couleur. On lui donne son ticket et puis... Lui, il sort, et si jamais, par le plus pur des hasards, il se faisait contrôler, il pourrait toujours dire « moi, je suis passé là-bas avec ce vendeur », et moi, je dirais « ah bah oui, évidemment, excusez-moi, c'est moi qui ai fait une erreur, bien entendu, non, non, ce monsieur, cette dame n'a pas volé, donc voilà, il n'y a aucun problème. Du coup, en fait, je me suis rendu compte que la pratique était simple, et en fait, étant donné qu'il faut se rendre compte que quand tu passes une journée en caisse, c'est pour quelques heures, que tu passes des centaines et des centaines de clients, bah, c'est une pratique que j'ai commencé à faire de manière hyper régulière et que je faisais en fait toute la journée, dès que je voyais qu'un client avait un certain nombre d'articles, parce qu'évidemment, ce qui est intéressant, c'est que si jamais il a que deux articles et que je lui en passe pas un, il va se rendre compte. Mais s'il en a 10 et que je lui en passe pas deux, soit il s'en rend pas compte et ça passe, soit il s'en rend compte, auquel cas, entre guillemets, il me le signifie, et là, je suis obligé de dire encore, ah bah oui, la méprise, excusez-moi, soit c'est pas le cas. Et du coup, c'est assez sympa aussi, c'est qu'on se rende compte que lui, il a l'impression d'avoir, entre guillemets, profiter du système, et avec la complicité, il se rend pas compte qu'en fait, voilà, en fait, on est deux mèches sans se le dire, et sans finalement même se le signifier. Et du coup, j'ai commencé à faire ça, en fait, de manière hyper régulière, et en fait, je sais pas, plusieurs fois, éventuellement dizaines de fois par jour, parce que voilà, on fait du débit, et qu'au final, plus je le faisais, plus je trouvais ça cool, et plus finalement ça égayait ma journée, et puis ça donnait du sens au travail un petit peu, quoi.
Galvanisé par cette pratique, Julien repousse à chaque fois un peu plus les limites. Il tâtonne pour déterminer jusqu'où il peut aller sans se faire prendre et sans mettre en danger les clients. Sur le moment, et encore aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, Julien a du mal à qualifier cette pratique de vol. Pourtant ça en est, il le sait.
Si tu fais ça, ce sera plusieurs centaines d'euros par jour, voire un peu plus. Tu peux atteindre le millier d'euros, je pense, sur une journée, quelque chose comme ça, à peu près, quoi. Après, c'est plutôt des articles pas trop chers, donc c'est plutôt de l'accumulation de petits articles. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que sur des journées de soldes, les gens, ils achètent, ils ont des tickets à 400, 500 euros dans ce type de magasin parce qu'ils viennent acheter 50 articles. Donc si tu leur en passes pas 3 et que tu fais ça et que ça fait 50 euros, 30 euros, voilà, c'est assez, ça peut vite monter, quoi.
Julien a le sentiment, par ses gestes, de rétablir une forme de justice sociale en réduisant la facture de certains clients. Comme les personnages du film Discount, il se voit un peu comme un Robin des Bois.
Je pense que le profil des clients jouait beaucoup, à savoir que c'était plutôt des gens de classe populaire, des personnes qui avaient un faible pouvoir d'achat, et j'avais vraiment cette idée de un peu accomplir un acte à ma petite échelle, quoi. Avec, aujourd'hui, je m'en rends compte avec le recul, pas mal de visions un peu caricaturales aussi, parce que c'est pas parce qu'elles étaient de classe populaire qu'elles étaient vraiment sympathiques, etc. Mais j'avais ce côté-là un peu vraiment de dire je fais une bonne action, en fait. En fait, voilà, c'est vraiment comme quelqu'un aiderait une vieille dame à traverser la rue. J'avais un peu ce côté-là, ma petite bonne action, ma petite BA du jour, mes petites BA du jour, quoi.
Surtout, il veut faire un pied de nez à la philosophie managériale de son entreprise qu'il désapprouve.
C'est ce qui a été un peu un déclencheur, c'est que moi, je trouvais les pratiques du magasin à l'égard du vol et de la surveillance assez strictes et finalement assez scandaleuses, à savoir qu'on nous demandait à nous, vendeurs, de contrôler les clients qu'on pouvait estimer un peu suspects, avec tout ce que ça peut entraîner en termes de discrimination, de choses comme ça. Et il y avait aussi à l'égard des vendeurs qui étaient... Parce qu'il y a certains vendeurs qui peuvent potentiellement voler pour leur compte, s'octroyer des réductions pour pouvoir essayer d'avoir des vêtements moins chers. Il y avait une politique vraiment extrêmement répressive. Et par exemple, la politique du magasin, c'est de dire que dès qu'un vendeur volait, ou en tout cas était accusé de vol, il y avait un dépôt de plainte et il y avait les policiers qui venaient chercher le vendeur ou la vendeuse dans le magasin. Et finalement, repartait presque avec les menottes quasiment systématiquement. Et alors qu'on avait tous conscience que finalement, ces vols-là, ils sont budgétés dans le fonctionnement du magasin. Tout le monde le sait. Et c'était même dans les chiffres de stats qui étaient affichés dans les vestiaires. Donc on sait qu'au final, on ne met pas du tout le magasin en péril parce que quelqu'un va voler pour 20 euros, quoi.
Selon la sociologue du travail Danielle Linhart, c'est justement les contextes de surveillance des salariés et de prescription très stricte du travail qui peuvent créer de la désobéissance.
C'est le sentiment d'être confronté à une logique extérieure, à ce qui correspond aux règles de votre métier, à vos valeurs professionnelles, éventuellement vos valeurs citoyennes. Qu'est-ce qu'un travail bien fait? Qu'est-ce qu'un travail utile? Si on ne peut pas travailler avec des marges de manœuvre et donc de l'autonomie sur ces questions-là, on a le sentiment d'être confronté à un travail qui ne correspond pas à ce que vous souhaitez engager de vous-même, de votre subjectivité, de votre compétence, de votre force de travail dans votre activité. Donc, il y a le sentiment d'être requis au travail et donc de ne pas pouvoir s'investir soi-même au travail. Le sentiment d'être voué à une situation d'obéissance, d'assujettissement, c'est quelque chose qui est difficile à vivre.
Cette prescription précise du travail n'est pas récente, selon la sociologue, donc la désobéissance à ces règles strictes non plus. Mais auparavant, elle touchait essentiellement les ouvriers, sous l'impulsion notamment des théories de l'organisation scientifique du travail de Frédéric Taylor.
Il disait notamment que les ouvriers pratiquaient la flânerie systématique, en disant « je les comprends, ils veulent se ménager, ils veulent ne pas avoir d'accidents, pas trop d'usure, etc. » Mais c'est un problème pour la productivité et le bonheur américain dépend de la productivité puisque les consommateurs veulent une abondance de biens à des prix abordables. Donc Taylor disait « pour le bien commun, il faut que les ouvriers ne décident pas tout seuls de l'organisation de leur travail, que ce soit le patron à l'aide d'ingénieurs et avec la science qui est neutre, universelle, impartiale et objective, définissent la manière la plus productive qui pourra satisfaire les consommateurs américains. Et donc, le taylorisme, c'est une dépossession des savoirs ouvriers dans les ateliers. Et c'est pour ça que dans les années 50, 60, 70, quand il y avait beaucoup d'ouvriers et de collectifs, il y avait de la désobéissance qui constituait ce qu'on appelait le travail réel. C'est-à-dire que les salariés ne faisaient pas que mettre en œuvre systématiquement les procédures, les manières dont ils étaient censés travailler, mais ils inventaient aussi d'autres, clandestinement, d'autres manières de faire qui étaient plus collectives, qui leur permettaient soit de se préserver aussi du point de vue de leur intégrité physique, soit aussi de donner plus de sens collectif au travail, d'introduire aussi des moments peut-être de répit, en travaillant plus vite à certains moments, ce qui pouvait dégager des moments où on soufflait. Donc, une sorte de récupération d'un minimum de pouvoir sur l'organisation du travail par la désobéissance. Il y avait des manières multiples de résister à cette logique qui veut qu'on est totalement exécutant. Donc, les ouvriers récupéraient de la dignité, le sentiment de s'approcher à nouveau peut-être de la notion de métier et pas simplement d'exécution, en ayant des pratiques transgressives. Alors, ça pouvait être par moment la grève du zèle. On n'appliquait que ce qu'on était censé faire. Ça marchait pas bien. Il y avait aussi la pratique de la perruque, où les ouvriers récupéraient des bouts de matériaux pour faire des objets qui n'avaient rien à voir avec ce qu'ils étaient censés produire et qu'ils ramenaient à la maison et qui permettaient aussi d'avoir une certaine, je dirais, pas concurrence entre eux, lequel réaliserait la plus belle perruque, peut-être un peu de coquetterie professionnelle en se faisant passer pour des virtuoses, celui qui arrivait le mieux à produire. Alors, c'était des parfois des objets utiles aussi pour qu'on pouvait utiliser à la maison ou simplement qui était le témoignage de la capacité et de la qualification ouvrière du métier que possédaient en réalité ces ouvriers. Métier, qualification, compétence qui étaient déniés en réalité par l'organisation officielle du travail. Donc là, il y a une sorte de récupération du sens du travail, capacité de montrer ce que sont réellement les ouvriers, c'est-à-dire pas des exécutants, des robots, mais des gens qui pensent et qui savent aussi, et satisfaction de faire aussi pour eux-mêmes.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Selon Daniel Linhart, depuis les années 80, le contrôle étroit des salariés et l'organisation stricte du travail, qui touchait auparavant essentiellement les ouvriers, gagnent désormais d'autres types de professions.
Ce qui caractérise probablement la modernisation, c'est que de plus en plus de catégories qui auparavant échappaient à cette prescription, comme les cadres, les ingénieurs, les techniciens, eh bien sont eux aussi soumis à une sorte de taylorisation de leur travail. Et cette prescription Elle se manifeste sous la forme de procédures, de protocoles, de process, de reporting, de méthodologies, codification imposées par des consultants, des experts qui concoctent l'organisation du travail et l'imposent aux professionnels, quel que soit leur niveau. Alors, on a de plus en plus de cadres, par exemple, qui se retrouvent via les logiciels confrontés à un travail qui est pensé en dehors d'eux et qui se manifeste sous une forme extrêmement prescrite. Les cadres, maintenant, ne peuvent plus influer sur la définition de leur mission, des moyens nécessaires pour les mettre en œuvre et de la façon de les exécuter, ces missions.
C'est ce qui s'est passé pour Aurélie. Elle a 33 ans et jusqu'à l'année dernière, elle faisait du contrôle de gestion dans un grand groupe industriel. Quand elle est arrivée dans cette entreprise, elle la connaissait déjà, puisqu'elle avait effectué une mission avec cette équipe quelques mois plus tôt, alors qu'elle travaillait dans un cabinet de conseil.
Je suis arrivée dans une équipe que je connaissais déjà, avec un manager qui était plutôt sympa avec moi. Les demandes étaient très intenses, le rythme était très intense, comme tous les postes en général dans ce genre de contexte. Mais jusque-là, j'avais 7 ans, 8 ans d'expérience, donc je savais gérer toute cette pression-là. Je savais comment faire mon travail, en tout cas. Malgré tout ça, je suis tombée sur un manager qui avait des demandes parfois très pressantes en termes de délai, voire intenables, en fait. Et j'avais beau le dire avec toute l'expérience que j'avais, c'était pas entendu, c'était pas reçu, et surtout, c'était pas aménagé, en fait. Donc du coup, je me retrouvais avec tous ces délais-là à tenir, sans que ce soit faisable. J'ai essayé de les tenir, j'ai essayé d'atteindre les objectifs, et c'était pas possible. Et il y a même des fois où j'avais plusieurs choses à faire en même temps, et je me rendais compte que c'était pas possible. Donc je demandais, quelle est la priorisation? Est-ce que je dois faire cette tâche avant l'autre? Et on me disait, non, c'est en même temps, il est 17h, c'est pour 19h, t'as pas le choix, tu peux avoir des stagiaires qui vont t'aider et tout ça, mais c'était pas possible. Donc je me retrouvais vraiment coincée, toute seule, là où moi j'attendais de mon manager un peu d'aide et un peu de soutien, et surtout de jouer son rôle de manager, c'est-à-dire de prioriser et d'organiser le travail de l'équipe. Moi, j'étais obligée de me débrouiller toute seule. Donc, le travail n'était pas fait. Mais en même temps, c'était impossible de faire autrement. Et donc, quand je disais que c'était pas fait, on me disait « Mais comment ça, c'est pas fait ?» Je te l'ai demandé hier, je t'avais dit que ça devait être fait, et voilà. Donc, je me débattais en essayant de dire la vérité. C'était pas entendu. On me faisait comprendre que c'était moi le problème. Donc, au bout d'un moment, j'ai grossi ce que je devais faire pour essayer de gagner un peu de temps.
Aurélie estime que pour faire son travail correctement, elle a besoin de plus de temps. Elle refuse de rogner sur la qualité de son travail pour satisfaire les demandes de son chef qu'elle juge irrationnelles. Dans un premier temps, elle essaye de lui en parler, de lui faire entendre raison.
Parfois, il venait tous les jours me demander où j'en étais sur un sujet, alors que moi, de mon point de vue, c'était pas du tout la priorité du moment. Donc il maintenait un peu comme ça une pression sur les résultats, sur rendre les choses. Et donc là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lui dire que c'était trop. J'ai commencé à lui faire comprendre par des petites phrases en lui disant « mais là, j'ai pas le temps » ou « mais tu voulais que je fasse ça quand ?» parce que je travaille pas la nuit, en fait. Et ça, quand je lui disais ça, il me répondait « je ferais comme si j'ai rien entendu ». Donc je pense qu'il savait que c'était pas faisable, mais comme... il y avait ce truc un peu où il me testait, comme s'il croyait que si je rendais pas les choses, c'était pour me garder un peu de temps libre ou pour être un peu tranquille, ce qui n'était pas forcément le cas. C'est-à-dire que les délais étaient vraiment pas tenables. Et ça, je le savais et il l'entendait pas.
C'est comme ça qu'elle commence à désobéir. Elle ne fait pas certaines tâches qu'il lui demande, elle établit elle-même ses priorités pour faire son travail à son rythme. À ce moment-là, elle ne perçoit pas ça comme de la désobéissance.
Mais j'avais pas la sensation vraiment de désobéir à ce qu'on me demandait. C'est-à-dire que à partir du moment où ce qu'on me demande c'est pas faisable, on peut pas le faire. Donc ne pas le faire, c'est pas vraiment désobéir, c'est faire comme on peut en fait.
Pour ne pas se faire repérer par son manager, elle ment sur sa charge de travail et met en place des stratagèmes.
Mon manager m'avait reproché que ma to-do list était pas assez remplie comparée à mes autres collègues en fait. Et du coup, pour être un peu tranquille, je suis rentrée dans ce système, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait une to-do list, justement, avec plein de sujets, mais avec même plein de trucs qui sont hyper lointains ou que j'ai à faire, mais je sais que d'une semaine à l'autre, ce ne sera pas fait, en fait. Et donc, j'ai fait cette to-do list. Et toutes les semaines, quand j'avais mon point hebdomadaire où je rendais compte sur qu'est-ce que j'allais faire cette semaine, je sortais cette to-do list et j'essayais qu'elle soit bien fournie pour que lui, physiquement, voit qu'elle soit bien fournie.
La pression qu'Aurélie reçoit de son chef, il lui demande de la mettre elle-même à ses collaborateurs.
Et aussi, parfois, comme on avait un poste à haute responsabilité, on traitait avec d'autres homologues au sein du groupe. Et on avait un peu un poste un peu au-dessus d'eux. On devait leur mettre la pression sur les délais et tout ça, parce que c'est eux qui devaient nous rendre leurs chiffres. S'ils ne le faisaient pas en temps et en heure, mon manager, il nous demandait de pas forcément être gentil avec eux ou d'être très ferme, voire un peu méchant, de leur faire comprendre que c'était nous les boss et qu'ils n'avaient pas leur mot à dire, un peu comme lui faisait avec nous, en fait.
Là encore, Aurélie décide de ne pas obéir à ses consignes.
C'était pas possible, parce que c'est pas ma manière de concevoir le travail. Pour moi, on travaille mieux quand on est dans une bonne ambiance, quand les gens s'entraident et quand il n'y a pas cette pression qu'on nous met. Donc, je ne pouvais pas. Et donc, je ne le faisais pas. Et donc, mon manager, quand il nous disait « Mais du coup, tu lui as dit qu'on ne lui ferait pas ça, on n'est pas sympa avec lui, et tout ça. » Je lui ai dit « Oui, oui. » Parce que je ne pouvais pas... Il n'aurait pas compris, en fait, que j'utilisais pas ma position pour avoir une pression sur les gens, comme lui le faisait. Mais moi, c'était impossible pour moi. C'était pas du tout dans ma nature de faire ça. Je me serais sentie pas en accord avec moi-même et je me serais sentie super mal, en fait. Super mal. Je peux pas m'empêcher d'avoir de l'empathie pour les gens et je peux pas m'empêcher de me mettre à leur place.
Pour Daniel Linhart, la désobéissance d'Aurélie est un moyen de reconquérir sa dignité.
L'image que renvoient les situations de travail les plus classiques maintenant, c'est un travailleur exécutant, soumis à l'évaluation de sa hiérarchie, une évaluation qui peut être arbitraire, soumis à la pression qui peut être de la hiérarchie, qui peut être démesurée, soumis à des objectifs qui peuvent être aussi surdimensionnés. Donc, véritablement, il peut y avoir un besoin vital de reconquérir une dignité, une image de soi plus valorisante, et en se prouvant le fait qu'on peut résister à tout ça et qu'on existe professionnellement. Et reconquérir de la dignité Alors, comme si on reprend l'exemple du jeune homme, c'est pas en imposant des valeurs professionnelles, parce que le vol, c'est pas nécessairement une valeur professionnelle, mais c'est une manière de contester les règles du jeu. Donc, c'est l'idée de « on ne prend pas soin de moi, je dois prendre soin de moi toute seule, donc je vais, de façon clandestine, réduire la pression qui pèse sur moi, la charge de travail qui est surdimensionnée et qu'on m'impose. » Donc, c'est une sorte de redresseur de tort aussi, mais à son échelle elle-même. On ne me considère pas comme on devrait me considérer, on ne veille pas sur moi comme on devrait veiller sur ma santé mentale et physique, donc je suis obligée moi-même de le faire.
Contrairement aux ouvriers pendant les 30 Glorieuses dont parlait Daniel Linhart, Aurélie ne peut pas s'appuyer sur son collectif de travail pour faire preuve de désobéissance collective. D'ailleurs, son manager fait en sorte de l'isoler en lui disant qu'elle est la seule à avoir des difficultés à gérer sa charge de travail.
Maintenant, les collectifs ont été largement déstabilisés et chacun est face à son destin personnel dans l'entreprise. Chacun doit négocier ce destin à sa façon la désobéissance collective exige qu'on ait une totale confiance dans ses pairs, dans ses collègues qui sont témoins de ce que vous faites. Alors là, il faut, si on veut désobéir, le cacher. On ne peut pas bénéficier du soutien et de l'admiration même des collègues quand on désobéit. Maintenant, ça peut être très dangereux. Si on est repéré, et pas simplement par la hiérarchie, mais si on est repéré par les collègues, qui sait ce qui peut se passer après ?
Au-delà du risque de se faire dénoncer, Julien a encore en tête le regard de ses collègues et la peur de les décevoir s'ils avaient appris ses combines.
Au final, j'ai perdu contact avec la plupart des gens qui je bossais, alors que certains, je les ai fréquentés pendant plusieurs années, donc il y avait quand même des relations qui s'installaient. Et ça m'est quand même souvent arrivé de penser à s'ils avaient su ça, entre guillemets, qu'est-ce qu'ils en auraient pensé, et peut-être qu'ils auraient été très déçus, quoi. Y compris même des managers, des gens que j'aimais bien, parce que je veux dire, c'est pas parce que l'institution et les pratiques me semblaient un peu scandaleuses que je m'entendais pas avec les gens et que j'avais pas l'estime pour eux. Et du coup, j'ai plusieurs fois pensé que je sais que certains d'entre eux auraient été déçus et ça pouvait m'attrister. Après, en réalité, c'est la vie, quoi. Mais voilà, quoi.
Si on désobéit, il faut le cacher. Donc, on n'en parle pas à ses collègues, on n'en parle pas à la hiérarchie, on n'en parle même pas le plus souvent à l'assistante sociale ou au médecin du travail, parce que voilà, on a peur d'être trahi, donc on le cache pour soi. Alors après, on peut le partager avec sa famille, avec ses amis, ou même politiquement dans des instances ou des groupes politiques, mais sur le lieu du travail, à moins d'avoir des collègues dont on est parfaitement sûr et qui partagent votre point de vue, il vaut mieux le faire de façon très clandestine, ce qui peut ajouter de l'attrait à la chose, parce que voilà, on est dans un jeu aussi. On est tout seul, on est dans un jeu, on a un sentiment de pouvoir, puisqu'on dissimule à tout le monde et les autres ne croient pas que vous faites ce que vous faites en réalité, ils ne le savent pas. Et donc, ça revalorise le sentiment de pouvoir agir alors que vous êtes essentiellement subordonné. C'est un peu une victoire sur la subordination. Voilà, personne ne le sait, mais je ne fais pas ce que je suis censé faire, pas de la manière dont je suis censé le faire, et je ne suis pas vraiment subordonné, ce qui était le cauchemar de Taylor.
La sociologue déconseille même de parler de sa désobéissance au syndicat ou aux ressources humaines, au risque que ça se retourne contre l'employé. En revanche, elle conseille de les approcher pour leur faire part d'un éventuel conflit de valeurs ou d'un management toxique, pour ne pas en supporter seul le poids, comme dans le cas d'Aurélie. Il y a tout de même une forme de désobéissance qui est aujourd'hui tolérée et même protégée par la loi depuis 2016, grâce au statut de lanceur d'alerte. Selon la loi, toute personne qui signale ou divulgue des faits répréhensibles ou contraires à l'intérêt général a le droit d'être protégée. À certaines conditions, être une personne physique et pas une personne morale comme une association par exemple, ne tirer aucun avantage financier du signalement et être de bonne foi. Sur le site du Défenseur des droits, on trouve un guide avec des recommandations concrètes pour les lanceurs d'alerte, notamment comment et auprès de qui le faire pour bénéficier d'une protection. La désobéissance peut permettre de pallier des situations compliquées sur le court terme, mais dans le temps long, ce n'est pas forcément une solution tenable. Après avoir désobéi et menti pendant plusieurs mois, Aurélie a fini par quitter son entreprise. Julien, lui, ne travaille plus non plus dans la fast fashion. Mais aujourd'hui, dans son travail actuel, il continue de penser à cette expérience et de raconter, de temps en temps, son histoire de Robin des Bois. Vous venez d'écouter Travail en cours. Je suis Adélaïde Tenaglia, j'ai tourné et écrit cet épisode. Il a été monté et réalisé par Louis Jobard et mixé par le studio La Fugitive. Louise Emerlet était à la production, accompagnée d'Elsa Berthaud. À très vite!
Bonjour, c'est Zoé Delouis. Dans Émotions au travail, on décrypte toutes les émotions qui vous traversent et vous bousculent parfois dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un podcast super inspirant, Bienvenue dans l'ascenseur, animé par Anne-Cécile Sarfati. Dans chaque épisode, elle reçoit des personnes aux profils variés, médecins, responsables commerciaux, chefs d'entreprise, qui ont su gravir l'ascenseur social. Partie de rien, ils et elles partagent leur parcours, leurs rêves, leurs doutes, leurs émotions, dans lesquelles vous vous reconnaîtrez sûrement, et donnent des conseils pour oser monter dans l'ascenseur social quand on n'y croit pas pour soi-même. Alors, allez découvrir ces belles histoires de réussite en écoutant Bienvenue dans l'ascenseur, disponible sur toutes les plateformes. Merci à Bienvenue dans l'ascenseur pour leur soutien, et bonne écoute!
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.